Les fesses à l'air, l'émission érotique sur Radio Campus Paris.
Vous savez comment on baisse dans un hardcore ?
Sensualité.
Vous êtes une pute.
Désir.
C'est vrai que c'est dégueulasse.
Sexe.
Petite cochonne.
Mmh.
Je vais te faire bander pour que tu me baises.
Intimité.
Qu'est-ce qu'il y a ? Ta femme ne t'a jamais sucé ?
Non. Érotisme.
Montre-moi ta queue. Montre-la.
Les fesses à l'air.
Il dira pas à votre papa.
Rose comme ton intérieur, bébé. Rose comme les murs et les portes. Rose comme tes doigts enfoncés en moi. Rose est la vérité que tu ne peux pas cacher. Rose comme ta langue qui court partout. Rose comme le soleil qui se couche. Rose comme les trous dans ton cœur, bébé. Rose, c'est ma partie préférée. Et ça tombe bien, Janelle, parce que c'est nous aussi, à nous aussi, notre partie préférée, le rose. C'était un extrait du titre Pink de la merveilleuse, scandaleuse, talentueuse chanteuse américaine Janelle Monáe. Cette chanson et le clip qui l'accompagne sont une ode à la vulve qui, et je vous invite ardemment à écouter et visionner encore et encore. Bonsoir Britney Spears, bonsoir à toutes et à tous. Aussi, on continue donc le marathon radiophonique campusien depuis le pavillon des canaux à l'occasion du festival féministe Pop Meuf. Alors, c'est au tour de nous, hein, il commence à se faire un peu tard, c'est au tour de nous, des fesses à l'air, de prendre l'antenne et on rempile ce soir pour 1h30 de talk sur le sexe, bah, comme d'habitude, vous allez me dire, mais le sexe au féminin. Et oui, on saisit l'occasion de ce festival pour en rajouter une couche et on n'en dira jamais assez sur ce sujet. On assiste, il faut le dire, et on va demander à nos invités si elles sont d'accord avec moi, à une forme de libération de la parole des femmes sur la sexualité, une affirmation du droit au savoir, à l'information, au plaisir et à l'égalité qui inonde nos réseaux sociaux et nos médias. Une vague féminine et multicolore qui s'exprime, s'offusque, milite, revendique, exige et hurle de colère parfois, mais aussi de plaisir. Parce qu'on en a des choses à dire et du temps à rattraper, hein, je vous le rappelle, 3000 ans de patriarcat. Alors ce soir, on va parler de désir, de plaisir et d'érection clitoridienne, ça existe, oui, avec des femmes qui ont pris la plume et le micro pour nous informer sur ce sujet qui nous passionne tant et elles le font très très bien. Les fesses à l'air.
L'émission érotique sur Radio Campus Paris.
Mais tu es un vrai puceau.
Les fesses à l'air.
Axel Jiquet.
Ouais,
bravo, j'ai réussi, ouais. Je suis très contente. Merci, bonsoir, merci beaucoup bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es auteur, tu es une militante féministe païenne, et on va en parler, hein, de ce terme païen, et tu es une militante contre les mutilations génitales féminines, et tu es surtout la créatrice du podcast que j'adore et dont je suis fan, Me, My Sex and I. Bonsoir. Axel, merci d'être avec nous ce soir. Tu es accompagnée de Carole Boinet qui est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Carole, tu es la toute jeune rédac chef adjointe des Un Rock et tu es également rédac chef du numéro annuel spécial sexe des Un Rock.
C'est ça exactement.
Qui est disponible en kiosque, il me semble, en début juillet, c'est ça ?
Mi-juillet, vers le 20 plutôt.
C'est plutôt...
Si je ne m'abuse.
Voilà. C'est l'été.
C'est le numéro qui reste 3 semaines en kiosque. Histoire qu'on prenne un peu de vacances, en fait.
C'est ça, et qu'on retrouve sur toutes les plages.
Voilà, c'est ça.
Et au bord de toutes les piscines. Pauline Verduzier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour la deuxième fois. On est très, très contents de te recevoir ce soir. Tu es journaliste freelance, indépendante. Tu t'intéresses particulièrement au corps et aux sexualités. Et tu es membre du collectif Les Journalopes. Bonsoir, Pauline.
Tout à fait, bonsoir.
Et puis ce soir, il y a l'équipe des fesses à l'air qui, je l'avoue, c'est le moment un peu larme mouchoir, qui m'avait beaucoup, beaucoup manqué. Il y a Farah. Salut, Farah.
Bonsoir, ma chère.
Flore qui va nous rejoindre, Brice aussi qui va nous rejoindre, un nouveau venu, Maxime chargé de nous divertir avec son fameux quiz, et puis Lorna, maestro, chef d'orchestre Lorna, qui a la réalisation de cette émission.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Alors pour être sincère, on a vraiment imaginé cette émission comme un talk autour des femmes et du sexe. On n'a pas cherché à angler, on n'a pas cherché à trouver un thème précis parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et ma première question, elle est pour toi, Carole Boinet. Tu es rédac-chef donc, du numéro spécial des Inroc sur le sexe. C'est un peu une prise de température sur ce qui se passe au niveau sexe en termes culturels. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que le numéro qui arrive en juillet 2019 s'annonce très riche?
J'espère. Je ne peux pas vraiment vous dévoiler les sujets pour le moment. Et j'aime beaucoup, personnellement, garder la surprise justement du sommaire qui sera donc à découvrir aux alentours du 27 juillet, si je ne me trompe pas. Mais oui, j'ai commencé à bosser dessus, notamment avec Jackie Goldberg, qui est un pigiste principalement cinéma chez nous, qui habite à Los Angeles et qui pige également pour le numéro sexe, et qui m'a déjà envoyé des propositions de sujets qui, à mon avis, vont beaucoup vous plaire. Il y a des histoires de clubs, de strip à LA, et il y a des histoires d'acteurs porno, il y a plein d'histoires. Il y aura toujours plein d'histoires. Mais cette année, je pense qu'il va vraiment falloir, en tout cas, donner une grande place, enfin, qu'on fait, à mon avis, depuis plusieurs années, mais peut-être encore plus grande, à justement ce grand sujet de la libération de la parole des femmes. Et puis. Et de l'ampleur qu'a pris un peu justement le fameux sujet du clitoris, où j'ai l'impression qu'on le découvre un peu chaque année. C'est assez effarant. Mais justement, sur le truc, pourquoi c'est effarant, moi, j'aimerais bien revenir dessus, quoi, forcément.
Pauline, ton dernier sujet, en tout cas celui que tu as partagé sur les réseaux sociaux, c'est sur l'orgasme mammaire. Alors,
oui.
Qu'est-ce que c'est l'orgasme mammaire?
Très simplement, il se trouve qu'il y a des femmes qui arrivent à jouir uniquement par la stimulation des tétons. Et en fait, ça s'explique totalement scientifiquement parce que visiblement, ça activerait les mêmes régions dans le cerveau qu'une stimulation clitoridienne ou vaginale. Mais en fait, juste les femmes, on est multi-orgasmiques dans tous les sens du terme. Et en fait, tout notre corps peut être érotisé. Et voire jouissif littéralement. Et en fait, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet article parce que j'écris aussi évidemment sur les violences faites aux femmes, mais parfois c'est aussi bien, enfin ça fait du bien d'écrire aussi sur le pouvoir de nos corps. Et donc ça, je l'ai fait, donc c'était pour Cosette. Et avant, j'avais fait un article aussi sur le périnée.
Effectivement.
Et le fait que on cantonnait souvent le périnée à la période post-accouchement, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut solliciter dans toute notre vie, et avec ou sans enfant d'ailleurs, et que c'était aussi un muscle, enfin en tout cas un ensemble de tissus et de muscles qui était jouissif lui-même.
Effectivement, j'ai lu que muscler son périnée, ça permet de développer des sensations nouvelles.
Et apparemment, ouais.
Apparemment.
Et le solliciter en tout cas.
Le solliciter. Et Axel, alors toi, tu as créé un podcast merveilleux, Me, My Sex and I, pour parler du vécu féminin. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors, en l'occurrence, c'est le vécu de femmes noires. J'ai choisi 7 femmes noires qui se livrent entre 45 minutes et 1h30 sur leur vécu intime, personnel, sensuel, amoureux et parental. Et c'était impératif pour moi d'avoir un podcast de cet ordre-là, parce qu'en fait, on s'intéressait très peu à l'intime des personnes noires. Et pour même dire la vérité, on pensait que... En fait, qu'elles n'étaient pas concernées par ce sujet, puisqu'on a l'habitude de nous entendre sur la représentation, sur les discriminations, sur l'espace public. Et quand j'ai proposé l'idée du podcast à des maisons de production, on m'a regardé avec des grands yeux, genre, mais en fait, l'intime, c'est-à-dire ? C'est-à-dire l'intime, quoi. Ah ouais, mais on ne voit pas vraiment quelle serait l'audience pour un contenu comme ça. Je remercie ces interlocuteurs parce que sinon je ne me serais pas lancée.
Ils t'ont lancé un défi.
Ouais, ils m'ont lancé un défi, et c'était pas vraiment de leur faute non plus de pas être en mesure de visualiser quelque chose comme ça, parce que par ailleurs ça n'existait pas dans l'espace public en fait, des propos tenus comme ceux qui sont tenus par les invités du podcast en fait, tout simplement.
Effectivement. Carole Boinet, ça fait longtemps que vous occupez du numéro sexe des Inroc?
Ça fait 2 ans. Avant, il était coordonné par Jean-Marc Lalanne et Géraldine Saratia, qui formaient un duo donc à la tête du numéro, et pendant des années et des années. Et moi, j'écrivais beaucoup dedans, et puis tout simplement, à un moment, ils en ont eu marre en fait de s'en occuper. Donc j'ai repris le bébé. Voilà, joyeusement.
Et en 2 ans, on voit une évolution concernant la parole, la prise de parole des femmes, l'empowerment, ce qu'on appelle l'empowerment des femmes en termes de sexualité, ou c'est trop pas assez long?
Ah bah si, à mon avis quand même c'est assez clair, et on le voit surtout je trouve via Instagram, où je trouve ça assez flagrant le nombre de comptes qui se créent tous les jours et qui accumule des nombres incroyables de followers et qui justement contribue énormément à mon avis à libérer cette parole et à parler de sujets dont on parle pas assez en fait. Et je trouve que Instagram là-dedans a vraiment joué un rôle qui à mon avis est énorme en fait, beaucoup plus que Facebook ou Twitter.
Parce que je me rappelle dans l'édition de 2018, vous avez fait un focus sur les podcasts, on va y revenir, parce qu'avec Pauline et Axel, on utilise l'outil podcast pour parler de sororité, de femmes, de sexualité, et donc l'Insta, c'est l'avenir selon
toi ? C'est déjà le présent, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas c'est le présent, ouais. Pour moi, avec des comptes comme Tajoui, on les connaît tous, mais... Même, il y a énormément d'illustratrices, Safia Bamet-Schwartz, que moi j'adore. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment une énorme prise de parole. Et je trouve que c'est une parole qui est très intéressante puisqu'elle est très créative. Donc, c'est-à-dire, là, je parlais des illustratrices. Je trouve qu'il y a une faculté, en tout cas sur Insta, à libérer la parole, mais en créant des choses, donc que ce soit des dessins ou des textes ou, je sais pas, une imagerie nouvelle ou des photos. Il y a les photos aussi. Il y a Romy Alizé qui est géniale, qui est photographe et actrice porno aussi.
Et c'est pas aussi la magie, d'une certaine manière, et la force d'Insta, c'est de se focaliser, d'une certaine manière, sur l'image. On lui a souvent reproché ça. Mais on l'a souvent vu, par exemple, sur Twitter, qui était un peu le réseau social émergent il y a une dizaine d'années, où on se disait Twitter c'est l'avenir, ça va libérer la parole. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et on va y revenir. Alors que sur Insta, on a l'impression que se focaliser sur l'image ou la manière dont c'est créé, les personnes sont peut-être plus libres d'une certaine manière pour exprimer leur art, leur propos.
Ben oui, j'ai l'impression. Après, faut pas non plus glorifier Insta qui a ses énormes défauts et notamment sur la censure des seins, ces fameux tétons féminins. Ça, je trouve ça quand même scandaleux qu'en 2019.
C'est encore le cas là.
Ouais.
Et le compte de Romy Alizé a été fermé.
A été fermé, ouais.
Moi, je sais que Rihanna a été fermée il y a 5 ans. Je suis pas très.
Oui, c'est encore le cas. Ouais. Je trouve ça incroyable qu'en 2019, justement, que en plus ce réseau social-là contribue à libérer la parole et complètement paradoxalement ne prenne pas des mesures pour arrêter ces censures qui me paraissent. Incroyable quoi.
Pauline Verduzier, libérer la parole des femmes sur le sexe, c'est aussi libérer le corps, l'image. Avoir le droit de montrer ses tétons sur Insta, ça fait partie de la libération ?
Bah oui, absolument. Et aussi, ce que permet Instagram, pour le coup, même si je me range totalement à cet avis, il y a un problème de censure et de qu'est-ce qu'on accepte, en fait. Pourquoi la nudité féminine pose tellement problème, et notamment cette surface tellement révoltante que serait le téton, ça me pose vraiment question. Mais ce que permet l'image, c'est aussi... des choses très visuelles et très explicites. Par exemple, il y a le compte Jouissance Club, il me semble, qui publie des dessins où, en fait, c'est littéralement une espèce de tuto sexuel de technique. Et ça, je trouve ça... c'est dédramatisant, c'est drôle, c'est bien fait. Et puis, ça peut même aider à avoir des tips. Et je trouve ça drôle, bien vu. Et même intéressant sur le plan de l'apprentissage. Et en plus, c'est pas des injonctions non plus. C'est pas suce ton partenaire de telle manière pour le faire monter au plafond. C'est pas ça. C'est tiens, bah, il existe telle manière, on te l'apprend et c'est démocratique et tout le monde peut s'inspirer de ça. Et je trouve ça intéressant pour le coup.
Ouais, on est en fait très loin du la pipe ciment du couple. Tu veux, on est
tout à fait, il y a du chemin
qui a été parcouru de cette époque. Et il y a un compte, par exemple, que j'aime bien aussi, qui est le CUNU, qui est un compte pédagogique avec des petites vidéos d'une minute à chaque fois sur une thématique. Et eux, ils se sont retrouvés censurés pendant 9 jours, là, récemment. Et elle est, à ce jour, le compte Instagram de cul le plus censuré d'Instagram. Mmh. En fait.
Ouais, ces comptes sont signalés massivement.
C'est des gens qui signalent et qui considèrent qu'ils sont heurtés, alors que sur Insta, c'est simple. Si tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas regarder. Enfin, c'est à toi de choisir tes hashtags. Bref. Et donc, Instagram, les réseaux sociaux qui favoriseraient seulement cette libération, ou il y a quand même des petits bémols ? Vous en voyez ?
Moi, perso, non.
Autre que la censure, non. Enfin, moi, je trouve ça assez chouette, justement, qu'il y ait au moins, en fait, qu'il y ait une proposition d'images différentes. C'est ça qui, moi, je trouvais important. C'est-à-dire que, comme tu le dis, après, on suit les comptes qu'on veut, on aime ce qu'on veut, on n'est pas obligé de tout aimer. Mais je trouve ça hyper important dans la société, en tout cas, qu'il y ait des propositions différentes, qu'il y ait des modèles de corps différents, qu'il y ait des modèles de sexualité différentes. Qu'au moins cette différence-là soit vraiment exposée le plus possible. Et ensuite, on choisit ce qu'on aime, quoi.
Après, le problème de cette exposition, c'est le cyberharcèlement. Mmh. Et donc, les femmes sont victimes d'un cyberharcèlement spécifique qui est aussi lié à la sexualisation de leur corps. et à toutes sortes de choses qu'on leur prête, une sexualité débordante ou que sais-je, enfin ça peut être ça, mais ça peut être aussi des insultes, ça peut être beaucoup de choses qui pour le coup sont pas du tout agréables par rapport à la libération que ça peut représenter. C'est une espèce de backlash qui est problématique.
Pauline, il me semble que quand on t'a reçu il y a maintenant bien 2 ans, presque 1 an et demi, j'avais posé cette question, mais j'ai encore envie de vous la poser. Pourquoi, vous, en tant que journaliste ou auteur, vous êtes intéressée au sexe, Carole Boinet? Pourquoi coordinatrice du spécial sexe?
Ma grand-mère me pose la même question tous les étés, mais avec un air hyper horrifié pour le coup.
Moi, j'ai aucun sous-entendu ni jugement.
Et à chaque fois, je vais vous faire la même réponse. Et à chaque fois, je lui explique qu'en fait, pour moi, c'est une porte d'entrée dans la société. C'est-à-dire que je trouve que le sexe est culturel et c'est passionnant. C'est vraiment une porte d'entrée pour explorer des thèmes très différents. Et notamment, justement, on peut pas... En fait, moi, je suis venue au sexe aussi par le féminisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut pas, à mon avis, s'intéresser au problème du sexisme et des inégalités si on s'intéresse pas un moment justement à ce qui se passe dans la chambre à coucher, quoi.
Je me rappelle très bien, Pauline, toi aussi, tu parlais de transversalité. C'est transversal, le sexe. Ça touche tout.
Ouais, et pour moi, c'est exactement pareil que Carole. En fait, c'est une porte ouverte sur le monde. Ça touche tous les domaines. Et c'est éminemment politique, contrairement à ce qu'on veut bien faire croire. Et en plus, ça peut être un objet d'enquête de la même sorte que sont tous les autres sujets journalistiques. Et ça me tenait beaucoup à cœur. Et ça dit des choses, en fait, de la société, des rapports femmes-hommes. Ça dit des choses de structure de pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant.
Axel,
bah, tu disais tout à l'heure que mon féminisme était païen et t'as dit on va revenir
là-dessus.
Mais oui,
alors voilà. Vous êtes féministe païenne, non, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est parce qu'il s'ancre justement, moi, dans mon sexe, littéralement, parce que mon entrée dans la sexualité a été forcée, c'était pas un choix. Et j'ai dû apprendre à me réapproprier cet espace intime-là. Et c'est en me réappropriant cet espace intime-là que je suis arrivée au féminisme, moi. Par contre, tu vois, j'ai fait le chemin dans l'autre sens, en comprenant, en fait, l'importance que le sexe pouvait revêtir dans cette question, enfin, dans la représentation, dans la question du féminisme. Et pour moi, c'est l'aspect primordial du féminisme, en fait. Je pars de là. Je pars de là et ça irrigue absolument tout ce que je peux envisager par ailleurs. Et le féminisme, en tout cas, que j'entends défendre, est un féminisme incarné et qui parle d'aimer son sexe au sens propre et figuré, quoi. Voilà.
Toute féministe autour de cette table?
Ah oui, oui.
Là, j'ai besoin d'une réponse, hein, pour le coup. Vous avez le droit de dire non, hein.
Oui, oui.
Alors, Axel et Pauline, vous utilisez, en tout cas Pauline, entre autres, le podcast comme moyen, en fait, de diffusion, d'information sur la sexualité, mais aussi sur toutes les questions liées aux femmes. Toi, Pauline, tu participes à un podcast qui s'appelle Quad Meuf.
Oui.
Effectivement, on va en parler tout de suite, mais avant, on va donner la parole à Farah, qui, il me semble, est fan des podcasts.
Et oui, très très fan des podcasts, donc je suis venue vous parler de ça ce soir. Vous l'aurez sûrement remarqué, à moins que vous viviez dans une grotte, sans accès à l'eau ou à Internet, le podcast audio connaît une réelle effervescence en France. Pourquoi ? Les podcasts sont gratuits, disponibles sur les applications ou même sur YouTube. Ils sont le meilleur moyen d'occuper son temps dans les transports en commun, parisiens. Il y en a pour tous les goûts, culture générale, témoignages, interviews de personnages publics ou privés. Mais contrairement à nos camarades britanniques ou américains, les femmes semblent avoir pris d'assaut ce nouveau média.
Effectivement. Et pourquoi les femmes ont investi le podcast, Farah ?
Alors, les raisons sont multiples. Dans un article publié dans le journal Bello Collective et intitulé « Meet France Badass Woman of Podcasting », on nous rappelle que 86% des studios de podcast créés en France ces 3 dernières années appartiennent à des femmes ou ont un créateur de genre féminin. Parmi ces podcasts, 35% sont dans le top 200 podcasts d'Apple France contre 10% aux États-Unis. Donc, la première raison de cette surreprésentation des femmes est simple. Beaucoup de podcasteuses sont d'anciennes journalistes qui appartenaient à des rédactions diverses où il n'était pas si simple de prendre le pouvoir, de s'affirmer ou de diriger. La seconde raison de l'essor des podcasteuses vient du format. Comme l'explique Charlotte Pudlowski, donc qui est créatrice du podcast Transfer qui a beaucoup de succès chez Slate, dans les colonnes de Combini, c'est un format où tu peux faire du long, où tu as le droit de parler sans qu'on te coupe la parole, un média où on ne le voit pas alors que les femmes sont en permanence réduites à leur physique ou à leur image.
Alors, quelle est la sélection de programmes féministes que tu souhaites nous faire découvrir ?
Alors, je vous ai concocté une petite sélection de mes programmes féministes préférés. Chacun aborde la question de l'égalité femmes-hommes et du rôle de la femme dans la société de manière différente. Donc, le premier podcast, c'est un podcast à soi, donc reprise du titre de l'essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi, un classique de la littérature féministe. Animé par Charlotte Bien-Aimé, il reprend le sujet principal du féminisme avec des paroles de spécialistes ou des récits plus personnels. Le second, c'est La Poudre. Donc, vous n'êtes pas passé à côté de ce podcast, j'imagine. C'est le podcast qui accuse le plus d'écoute sur toute plateforme de podcasts confondus. Le but est de donner la parole aux femmes. Donc, il y a Anne Hidalgo, Leïla Slimani, l'activiste Assa Traoré qui ont partagé le micro de Lorraine Bastide pour des entretiens fleuves, à la fois intimistes et militants. Il y a aussi Yes, une réponse au harcèlement. Donc, il a été créé par Anaïs Bourdet à l'origine du compte que vous connaissez sûrement, Tumblr renommé Paye ta schneck, qui rassemble des milliers de témoignages de femmes victimes de harcèlement sexuel dans la rue. Donc Yes est un podcast qui sert de manuel de survie au machisme à travers des témoignages de femmes qui ont réussi à répondre aux remarques et agressions sexistes.
Et ces podcasts semblent porter le nous de nous les femmes dans l'espace public et face aux micro-agressions de quotidien. Mais existe-t-il des podcasts qui accentuent le visage intersectionnel du féminisme ?
Oui, certains podcasts prennent le parti d'axer leur ligne éditoriale autour de la diversité des expériences face au sexisme. C'est le cas de trois podcasts que j'ai choisi de vous présenter. Donc, Quad Meuf est un podcast destiné à un public concerné par le féminisme dans son sens le plus large. Sexisme au travail, rapport au corps, harcèlement, mais aussi représentation féminine. Donc, Pauline Verdizier qui est avec nous ce soir, Clémentine Gaillot et Mélanie Wanga. Également créatrice du podcast Le Chip, que j'aime beaucoup et que je vous recommande, explore ces sujets avec la même verve en invitant parfois des femmes concernées par un sujet en particulier et donne la parole souvent à leurs abonnés. Il y a également Thé Noir, c'est un podcast afro-français où on parle de femmes noires, de maquillage, de séries sous un ton à la fois léger, direct et piquant. And last but not the least, donc deux vendredis par mois, Me, My Sex and I, au micro de l'entrepreneur militante féministe et autrice Axel Djajike. Donc autour de ce micro, des femmes viennent se confier sur des aspects de leur vie personnelle, professionnelle, familiale, mais également de sexualité, ils viennent parler de sexualité, de plaisir féminin. Donc cette sélection de podcasts est non exhaustive et ne demande qu'à être enrichie. Il existe d'innombrables podcasts étonnants dirigés par des femmes en France qui ne sont pas mentionnés ici et que je vous invite à découvrir sur Binge Audio et Nouvelles Écoutes.
Eh ben merci beaucoup Farah. Axel, pourquoi le podcast ?
Parce que je déplorais donc déjà la représentation, qu'il n'existe pas de représentation de l'intime des personnes noires, parce que j'ai créé en fait le podcast que j'aurais voulu entendre moi quand j'avais 15 ans. Parce que, voilà, pour plein de raisons, pour plein de thèmes qui n'étaient pas abordés dans les communautés auxquelles j'appartiens, qui sont des thèmes hautement tabous. Et ensuite, le podcast, parce que c'était une liberté, spectaculaire. J'avais pas de feuille de route, je n'avais pas d'obligation quant au contenu, je n'avais pas de... Enfin, il n'y avait aucune censure possible. Elles étaient libres de parler comme elles voulaient. Et comme j'avais participé, en fait, moi, cette conversation-là, je l'avais débutée en 2015 avec la plupart d'entre elles à l'occasion de la sortie de l'ouvrage auquel j'avais collaboré, qui est Volcanique, une anthologie du plaisir, sous la direction de Léonora Miano, qui est le prix Femina 2013. Et elle nous avait convoqués pour livrer un ouvrage sur le plaisir féminin par 12 auteurs des mondes noirs, donc 12 femmes auteurs des mondes noirs, aussi bien des Caraïbes, de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Et à la suite de cet ouvrage-là, dans le cadre de la promotion, on avait eu l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectrices, parce que le livre avait très bien marché. Et au détour des conversations que j'avais avec elles, j'étais extrêmement surprise de voir à quel point elles étaient désireuses de se livrer sur cet aspect, vraiment, mais ce qui est le plus intime, parce qu'en fait, c'est quand même un livre qui se lit d'une seule main, Volcanique, a priori. Donc, a priori, on a réussi notre mission. Donc, elles arrivaient quand même vers moi en me confiant des choses vraiment intimes. Et l'idée du podcast était, en jachère à ce moment-là, je pensais en faire un livre de témoignages. Et puis finalement, les maisons d'édition françaises nous ont dit que elles ne pensaient pas que ce serait susceptible d'intéresser une audience. Voilà, donc moi j'ai dit c'est tant pis, c'est dommage pour vous. Parce que voilà, au niveau audience, on est à 150 000 écoutes aujourd'hui. Ça aurait pu faire 150 000 ventes. dommage, mais voilà, mais tant mieux, tous les noms.
150 000 écoutes.
150 000 écoutes aujourd'hui, et elle continue. Et c'est toujours, voilà, moi c'est une surprise pour moi tous les matins quand je découvre les chiffres. Je me dis, mais c'est pas possible, vous allez arrêter à un moment donné. Et non, vous arrêtez pas. Et merci vraiment, là, c'est un merci particulier à celles et ceux qui écoutent, parce qu'on a un public qui est mixte. On a un public, enfin moi je suis très très fière de ça, parce qu'il est... Il est aussi inclusif, ce public. Mm-hmm. Le podcast ne s'adresse pas qu'aux personnes noires. Mm-hmm. Il s'adresse à des personnes qui ont voilà, des mères, des sœurs, des tantes, des collègues de travail, des meilleurs amis qui sont noirs. Et toutes ces personnes, en fait, écoutent ce podcast. Et parfois, ce sont elles qui le recommandent aux premières concernées en leur disant mais comment ça, t'as pas entendu parler de Mima Sexanaï, c'est pas possible et tout. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand je reçois les messages derrière en me disant en fait, c'est quelqu'un qui était pas concerné, en fait, qui m'a recommandé votre podcast. Et je dois avouer que, ouais, ça le fait, en fait. Bravo.
Voilà. Et bah, bravo. Bah, nous aussi, on te dit bravo. Pauline Verduzier, toi, tu participes au podcast Quad Neuf. Quad Meuf, pardon, sur la plateforme Nouvelles Écoutes.
Oui.
De quoi ça parle ?
C'est un podcast féministe qui est animé principalement par Clémentine Gallo. Malheureusement, Mélanie Wanga ne fait plus partie de l'équipe, mais il y a Kiemis, Anne-Laure Pinault et Julie Amaïd qui y participent. Et c'est un podcast qui parle de plein de sujets féministes. Donc moi, j'ai bossé sur l'orgasme gap, donc le fait que... pourquoi les femmes hétérosexuelles jouissent beaucoup moins que les hommes hétérosexuels, par exemple.
Ou
les femmes lesbiennes, bien sûr. Et donc, il y a eu un épisode là-dessus, un épisode sur le dating, un épisode sur les cheveux, un épisode sur la charge émotionnelle dans le couple et dans la vie. Le fait que les femmes pensent tout le temps à la place des autres ou de leurs partenaires, notamment à toutes les petites choses du quotidien, à faire attention à tout le monde, à penser à, je sais pas, entretenir le couple, entretenir les relations. Donc voilà, c'est plein de sujets, en fait, qui sont à la fois intimes et politiques, encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a une grande liberté dans le podcast qui permet de se livrer aussi personnellement parfois, de livrer ses opinions plus explicitement que dans la presse écrite, par exemple. Mm-hmm. Et ça, c'est un outil.
Et libérer aussi du poids de l'image, aussi, j'ai l'impression.
Ouais, et en plus, j'ai l'impression que c'est un peu écouté par des gens qui, au minimum, s'intéressent au sujet. Et du coup, je sais pas, il y a quand même une bienveillance dans les communautés d'auditeurs et auditrices de podcasts qui est bienvenue.
Oui, et justement, il y a beaucoup de réseaux, finalement, de podcasteurs. Il y a de plus en plus d'événements qui invitent ces personnes-là. Et notamment, il y a Anouk Perry, qui est une ancienne rédactrice de chez Mademoiselle, qui était rédactrice sexualité, qui organise des sortes de workshops pour apprendre à d'autres personnes à faire des podcasts. Et je trouve ça absolument génial, parce qu'il y a aussi cette barrière de la technique, parfois, où on veut se lancer, on a des idées, et on se dit, mais non, je ne suis pas légitime, je ne sais pas faire, j'ai jamais fait de radio, alors que finalement, on s'arrange toujours avec la technique quand on a les bonnes idées, je pense.
Et pour parler d'Anouk Perry, puisque voilà, on cite son nom, je vous recommande vivement d'écouter un podcast qu'elle a fait qui s'appelle La salope du lycée.
Il est génial.
Qui est génialissime, puisqu'on parle de sexualité, puisqu'on parle d'idées reçues, puisqu'on parle de sexualité féminine en l'occurrence. Et vraiment, ça vaut le détour. Écoutez celui-là.
Carole Boinet, vous avez analysé cette émergence du podcast dans le dernier numéro des Un Rock spécial sexe. Quel regard vous avez sur le développement, en fait, du podcast ?
Pas moi, c'était Clément Arbrin.
Effectivement, Clément.
Lui rendre à Clément ce qui lui appartient. Comment je l'ai analysé, je trouve ça assez, assez passionnant comme aventure. On peut pas, c'est forcément positif. Je trouve, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que le fait justement qu'il y ait plein de propositions, en fait, c'est que du positif. Une fois que les gens ont le choix, en fait, avoir le choix dans la vie, c'est que positif. Donc moi, que les gens aient comme ça plein de podcasts autour d'eux, avec plein d'histoires différentes, avec plein de propositions différentes, et ça ne, de toute façon, ça ne peut faire qu'avancer le féminisme, puisque à force de répéter les mêmes choses, c'est bête, mais en fait ça commence à rentrer dans la tête des gens, ça commence à toucher un public plus grand, les gens ils commencent à en parler le dimanche midi à table avec leur famille, ça rentre dans les maisons, ça dépasse vraiment le petit public indé, justement, des féministes qui parlent aux féministes, quoi. Moi, c'est ça que je trouve intéressant.
On va se poser cette question-là. Pour vous, ça dépasse vraiment le public indé? Pauline disait peut-être un peu l'inverse, peut-être que j'extrapole sur ce que tu disais. On sait que les gens qui vont nous écouter s'intéressent un minimum à notre sujet. Pour toi, on va aller au-delà de notre public parisien convaincu grâce au podcast?
À mon avis, oui. Enfin, là, à mon avis, moi déjà, par exemple, je viens pas de Paris, je suis de Saint-Brieuc en Bretagne. Et Saint-Brieuc en Bretagne, ils parlent de podcast tout le temps. Toutes les gamines au lycée, elles parlent de ça. Si, pour moi, ça, non seulement ça a dépassé Paris, donc ça c'est sûr, ça arrive en région. Mais en plus, ou alors je me leurre complètement, mais pour moi, ça a vraiment touché quand même un grand public. Après, pas forcément tous les podcasts, hein, ça je sais pas. Mais quand on voit le nombre d'écoutes, par exemple, de La Poudre, qu'on aime ou pas, j'aime pas tous les entretiens qu'elle a menés, mais je trouve que c'est forcément positif. C'est-à-dire que La Poudre soit connue dans toute la France à peu près, je trouve ça hyper positif et que des garçons m'en parlent. C'est-à-dire c'est ça aussi qui est important, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça touche plus que seulement un public féminin. C'est qu'il y a vraiment des garçons qui en parlent et puis ça touche aussi des générations hyper différentes, quoi.
Oui, justement, pour revenir à cette idée que le podcast a conquis toute la France, pour reparler d'Anouk Perry, vous aurez compris que je suis absolument fan, elle a développé un nouveau concept qui s'appelle le Tour de France du cul, si je ne me trompe pas, où elle va se déplacer pour rencontrer de nouvelles personnes parce qu'elle avait cette impression-là, que ça restait très parisien finalement, l'univers du podcast féministe sur la sexualité. Et dans son premier épisode de son Tour de France, elle a été à Marseille dans un planning familial, et c'est un reportage très intéressant où elle parle finalement de sexualité, du public qui peut se rendre dans ce planning familial, avec toutes les problématiques que ça évoque. Et que justement, je pense que le podcast, c'est cette dimension numérique, cette dimension aussi de l'anonymat, parce que finalement, on peut pas savoir qu'on va écouter certaines choses qui relèvent de l'intime et du tabou. Ça permet de franchir certaines limites qu'on a par notre déterminisme social, nos origines, etc. Et que c'est un moyen de s'informer, surtout. Je trouve que pour les jeunes filles, ça devient quelque chose de capital de s'informer sur ce qui est normal ou pas.
Et moi, je sais, de par les statistiques que j'ai sur le podcast, sur le nôtre, que ça a été écouté dans plus de 60 pays, en fait. Donc vraiment, rassurez-vous, ça sort du cercle parisien, en fait.
Mais là, c'est clair.
C'est clairement.
C'est international.
Je bave. fait le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise. Tout simplement.
Oh my god.
Les fesses à l'air, l'émission érotique sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Campus Paris, vous écoutez toujours les fesses à l'air et on est encore en compagnie d'Axel, de Pauline et de Carole, trois femmes qui parlent haut et fort et très bien de sexualité. Alors avant la pause, on parlait des podcasts, de leur influence et de la manière dont ils nous apprennent des choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre un terme, on découvre un organe qui s'appelle le clitoris. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'on m'en parle, ça fait bien 28 ans que j'en ai un, j'ai 28 ans, et pourtant, je découvre en même temps que certaines d'entre vous l'existence du clitoris. Pourquoi aujourd'hui on apprend à connaître notre corps et donc notre plaisir? Pourquoi maintenant, Carole?
Alors, pourquoi maintenant? Parce que je pense que les femmes en ont juste ras-le-bol. Enfin, là, ça devient vraiment catastrophique. Et moi, c'est ce que je disais en intro tout à l'heure. Je trouve ça vraiment effarant qu'on soit en 2019 et qu'on soit encore à publier des schémas du sexe féminin sur Instagram. Heureusement que ça existe. Mais il faut quand même se dire qu'on est quand même en train de faire ça en 2019. Et le fait qu'on soit encore en train de le faire, moi, me paraît vraiment aberrant. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il y a plein de féministes, plein d'assauts féministes qui demandent à ce qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle qui soient vraiment très bien faits au collège. C'est toujours pas le cas.
On a vu la réaction quand Marlène Schiappa lance juste une directive. C'est-à-dire que c'est dans la loi. Elle demande juste aux établissements de faire leur travail, donc de respecter la loi et qu'il y ait 3 cours d'éducation sexuelle par an. C'est la fin du monde.
Moi j'ai 32 ans, je me rappelle très bien de mon cours d'éducation sexuelle, je pense que c'était en 4e, ça a duré un cours, il nous a appris à mettre une capote en gros sur un tube de dentifrice. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, par exemple, ma génération est quand même choquée. C'est-à-dire on est choqués, quoi. Moi, j'ai grandi avec ça, avec l'image que le sexe, c'était ça. C'était apprendre à mettre une capote sur un tube de dentifrice. Donc là, je parle même pas de... Je sais pas s'il y avait des gamines, par exemple, qui étaient homosexuelles dans la classe. Donc je parle même pas d'apprendre à... Peut-être que les femmes aussi ont un sexe et qu'elles sont pas juste dévouées corps et âme au sexe de l'homme.
J'aime beaucoup raconter cette anecdote. Moi, je trouve que c'est important d'aller au-delà des tabous. Moi, j'ai découvert mon clitoris en le blessant. Donc voilà. On m'a dit, non, là, c'est très, très, très nerveux. Voilà, c'est très sensible, donc faut pas faire ça. Et j'ai l'impression que je suis pas la seule. Axel.
Alors, il y a... T'es certainement pas la seule, ça, je te le confirme. C'est vrai qu'il y a un vrai tabou sur cette question-là. Enfin, pour moi, en tout cas, à mes yeux, ça s'explique en partie parce que c'est le centre du pouvoir. Enfin, c'est un organe qui parle du pouvoir des femmes, du fait qu'elles soient des sujets, qu'elles ne soient ni des mères potentielles, ni les tantes, ni les sœurs, mais juste des sujets, en mesure de se faire jouir. On est quand même doté du seul organe qui ne sert qu'à ça, il ne sert à rien d'autre. Et c'est probablement la raison pour laquelle cet organe justifie la plus vieille, la plus ancestrale des mutilations faites aux femmes, donc l'excision. Et moi, je milite effectivement au sein du GAMS, qui est donc le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, pour l'abolition de cette pratique. Mais dans le même temps, je trouve extrêmement important, et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne, qui s'appelle Isna Dobretzel, avec Julia Pietri du Gang du Clito, avec le féminisme populaire, pour démocratiser l'anatomie du clitoris, pour que cette info-là soit juste à la portée de tout le monde, surtout si possible dans les manuels de SVT, donc à destination de nos filles. Moi, je suis maman, donc j'en fais une affaire, mais genre personnelle, quoi. Et là, récemment, il y a Marlène Schiappa à la tribune de l'ONU qui nous a dit que être féministe, c'était ne pas tolérer pour les filles des autres qu'on ne tolérerait pas pour les siennes. Moi, je pense qu'être féministe, c'est s'assurer déjà que nos filles à nous ont les informations qu'il faut pour savoir disposer de leur clitoris et de leur anatomie. Donc, d'une part, oui, il faut se mobiliser pour la lutte contre l'excision et absolument faire le nécessaire pour que la suppression de cet organe disparaisse de l'histoire de l'humanité. Mais dans le même temps, allons au bout du truc et soyons d'accord pour que nos propres filles soient quand même au courant de ce qu'elles ont entre les jambes, quoi. tu peux pas, dans le même temps, jouer les hypocrites et dire, bah non, en fait, ce sujet-là, nos filles, elles sont trop jeunes, et trouver totalement normal, quand Michel Cymès sort un bouquin, il y a 2 ans, 3 ans, on lui est tout tombé dessus, on est passé pour des viragos finis, parce qu'on lui expliquait que c'est gentil ton schéma là, monsieur, mais en fait, la dadame, elle a pas juste un truc pour faire pipi et des bébés, hein. En fait, elle a un clitoris, il manque un truc sur ton schéma, on s'était fait défoncer, défoncer.
Mais il est très populaire, Michel.
ouais, mais j'aimerais bien que ce soit plutôt nous qui devenions populaires et que cette campagne devienne populaire, tant qu'à faire.
Pauline Verdusier, pas de clitoris dans les manuels scolaires. Voilà.
Non, je crois qu'il y en a un maintenant, un manuel de SVT qui le représente, 1/8, voilà.
Ouais, effectivement, c'est un des problèmes.
Voilà.
1/8.
Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, même dans le langage, finalement, les organes génitaux féminins sont définis en miroir de ceux des hommes, ou en tout cas dans une forme de complémentarité. Et en fait, c'est ce que j'ai lu dans L'origine du monde de Liv Strömquist, la BDiste suédoise, il me semble, féministe. Et en fait, elle explique qu'on parle par exemple beaucoup du vagin comme un endroit qui serait une sorte de tube. Alors déjà, c'est pas un tube, hein, mais où bah, le pénis doit aller voilà, pour faire des enfants ou pour éjaculer. Et en fait, on parle pas de la vulve, on parle pas du clitoris, on parle pas en fait de la chatte, mais en tant que telle et en tant que libre et ayant des fonctions pour la personne, pour la femme, en dehors d'une sexualité phallocentrée et hétérosexuelle. Donc ça, c'est quand même assez frappant, et je pense que c'est aussi pour ça que le clitoris est invisibilisé, c'est-à-dire qu'on réduit quand même beaucoup le sexe féminin au vagin, lieu de...
C'est le terme qu'on utilise le plus pour parler du sexe féminin.
Et on parle pas de vulve, alors que, bah parce que c'est le lieu de la pénétration et potentiellement de la fécondation, mais même c'est pas là que ça se féconde, mais c'est pour faire des enfants, quoi.
Farah.
Et justement, on parlait d'éducation et de ces fameuses séances dont on se souvient tous. Alors, pour revenir sur cette directive, vu que c'est ma spécialité,
donc une grande juriste autour de cette table.
Elle impose 3 visites de spécialistes, que ce soit infirmiers, du planning familial, dans les établissements scolaires, au collège et au lycée. Donc 3 visites par an. Et Dr Capote le rappelait très récemment, parce que Dr Capote, au-delà d'être un personnage du web, c'est quelqu'un qui vient très souvent dans les collèges et les lycées depuis une 30aine d'années faire de la prévention, qui expliquait que cette obligation, elle était très peu respectée parce qu'elle est de l'ordre d'une directive, c'est pas du droit dur, en fait, c'est du droit mou, comme on l'appelle dans notre langage de juriste, et qu'il n'y a aucune sanction pour les chefs d'établissement qui ne respecteraient pas cette directive. Et au-delà de ça, lors des séances, elles sont à la totale discrétion des chefs d'établissement. C'est eux qui choisissent d'orienter les manières dont on va expliquer les choses aux enfants. Et il y a aussi un grand danger en ce moment, c'est qu'on tente d'externaliser tous les services publics, comme vous l'avez expliqué, notamment les infirmières scolaires. C'est que dans le sens où vont les débats, il s'agirait de rendre la médecine préventive dans les collèges et les lycées dans le domaine du privé. Donc il n'y aurait plus d'infirmières scolaires dans les collèges et lycées, ce qui ferait qu'on aurait encore moins d'accès pour des jeunes filles ou des jeunes hommes isolés aux informations importantes, ou même de la contraception gratuite, des conseils, même face aux agressions. Donc je pense que le terrain est là, le terrain est à l'école, il faudrait mettre en place des mesures coercitives pour obliger les chefs d'établissement à prendre leurs responsabilités. Parce que là, avec tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, on voit beaucoup de nudité, etc., je trouve que ça brouille encore plus les pistes entre érotisme, sexualité et consentement, parce qu'on n'en parle jamais non plus à l'école. C'est que ces séances-là ne sont pas tournées autour du consentement, et je pense que c'est une des questions fondamentales.
Effectivement, Carole Boinet, quand on fait un numéro spécial sexe, comment on parle en fait de sexualité féminine? Comment on choisit ces sujets? Et est-ce qu'on a l'idée de dire que ça doit être paritaire ou pas du tout? Ça va de soi, parce que beaucoup de femmes parlent de ça, s'expriment culturellement à travers leur art, sur la sexualité.
Bah, moi aussi, je réfléchis quand même à ce que justement tout le monde soit à peu près représenté dans le numéro. Je trouve ça vraiment dramatique de sortir un numéro spécial sexe, par exemple, avec que des sujets hétéros, ou que des sujets masculins, enfin c'est vraiment pas le but. Donc bien sûr qu'il y a un travail qui est fait là-dessus justement, c'est le travail hein, du Red Chef d'essayer de justement qu'il y ait un équilibre d'ensemble. Donc moi je réceptionne aussi les idées des pigistes, de l'équipe. Moi-même j'écris et puis ensuite voilà, on essaye de créer un équilibre en fait dans le numéro.
Et quel est le propos aujourd'hui des femmes autour du sexe? Ça tourne autour du plaisir, de revendications, elles sont en colère, elles sont apaisées. Qu'est-ce que vous ressentez ?
À mon niveau, enfin, je pense que le propos il est double, c'est-à-dire que les femmes ont toujours été des objets, jamais des sujets. Donc là, la réappropriation est forcément double, c'est-à-dire que c'est à la fois la réappropriation de son plaisir et à la fois la réappropriation de son corps, pardon, et donc forcément la dénonciation des agressions sexuelles. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire et de toute façon, moi je le répète souvent, c'est-à-dire que la femme enfin, le premier pas du féminisme, c'est justement de la réappropriation du corps qui ne nous appartient pas, en fait, de notre naissance à notre mort. C'est-à-dire que le corps féminin, soit il est fait pour porter un enfant, soit il est fait pour accueillir un pénis, soit il est manipulé par des gynécos qui accueillent quand même très très mal souvent les jeunes filles. Les violences gynécologiques dont on parle là, récemment, enfin on est... Quand même, en 2018, je pense que ça a commencé à exploser, que oui, il y avait des violences gynécologiques et on n'en parlait jamais avant. Donc tout ça, en fait, font que forcément, le gros problème sociétal à l'heure actuelle, c'est que les femmes ne possèdent pas leur corps. Mmh. Et donc la colère est forcément double. La colère tient au fait qu'on on jouit pas. Mmh. Et la colère tient aussi au fait qu'on nous agresse en permanence et que notre corps n'est pas le nôtre.
Et dans votre édito, vous dites... Clairement, MeToo, ce sera plus tard enseigné dans les cours d'histoire.
J'espère, ouais. Sinon,
vous avez vu l'avant-après MeToo, vous ?
Ah bah oui, j'espère que tout le monde l'a vu quand même. Il y a eu clairement, à mon avis, vraiment une rupture positive dans le sens où il s'est vraiment passé un énorme choc sociétal, à mon avis, qui a contribué à libérer la parole. Après, là, moi, je parle quand même d'un point de vue, à mon avis, très européano-centré et occidentalo-centré. Je ne sais pas trop si il y a vraiment une prise de conscience internationale.
En tout cas, Axel, pour ce qui est de l'Afrique, elles vont même plus vite que nous ici. Parce qu'elles, elles se saisissent de cette question-là à partir de l'intime. C'est la petite différence avec le féminisme européen. C'est qu'elles, elles partent de l'intérieur de la maison et de ce qu'elles ont vu faire à leur mère, à leur tante, à leur grand-mère. Et c'est ce truc-là qui amène les jeunes filles, parce que c'est surtout des jeunes filles en fait, qui s'emparent beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui sur ces questions-là, à se révolter comme elles le font. Et elles ont ces outils à portée de main. Et du coup, elles y vont, mais elles font pas semblant. Hein. Moi, je suis impressionnée par ce que je vois passer où je me dis, mais... Waouh, en d'autres temps, nos mères n'auraient pas pu se permettre une parole comme ça et les gamines, elles ont juste peur de rien. Il faut voir ce que les petites Guinéennes, elles font. Elles sont dans un pays où le taux d'excision atteint 94%. Il faut voir comment est-ce qu'elles sont en train de s'adresser à leurs dirigeants sur cette question-là, comment elles sont en train de s'adresser à toute l'Afrique, en fait, sur cette question-là, en disant, mais à un moment donné, en fait, nous, on a décidé d'être la génération avec laquelle ça allait s'arrêter. Et vous allez devoir faire face à notre décision. Donc non, c'est pas européocentré, mine de rien, en fait, tout ça est poreux. C'est juste que je pense qu'on se voit pas, mais il y a, à un moment donné, le maillage va apparaître, mais on est toutes en train de livrer la même bataille. Et c'est peut-être parce qu'on appartient, nous, à des espaces où ces questions-là ont été mêlées à d'autres questions d'autonomie, d'autodétermination raciale, etc., qu'on s'en empare d'une manière un peu différente. Et c'est pas pour rien que le féministe de Chimamanda Ngozi Adichie a parlé au monde entier, parce qu'il est extrêmement pragmatique, c'était des cas concrets. Et je pense que c'est ça qui définit en fait le féminisme qui arrive de ces espaces-là, c'est que nous, en fait, on est dans le vécu, dans l'incarné, dans la transmission, et ça part vraiment de nos mères et de nos grands-mères. Mais c'est un peu partout pareil, parce que à mes yeux, en tout cas, je pense que le féminisme, ça commence avec ça commence avec comment est-ce que s'incarne le féminin dans les familles, comment est-ce que le féminin nous a été transmis déjà à l'échelle de nos mères et de nos grands-mères, et qu'est-ce que ça nous dit de la manière dont l'intime est vécu et des autorisations qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc il y a tout ça, on est en train d'avoir, c'est la même conversation, elle a juste différents visages, mais putain, on est en train de la voir, quoi. Et on va plus la lâcher.
Pauline, tu penses aussi qu'on l'a au niveau international cette... tu sais pas.
Je suis en train d'acquiescer parce que je trouve ça, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Après, moi, je suis pas en mesure de le dire.
Axel, tu te considères comme... Tu es féministe païenne, tu disais ça tout à l'heure. Païenne intersectionnelle ou pas du tout?
Alors, j'ai un mot, j'ai un petit problème avec ce mot parce qu'il est devenu, à mes yeux, quelque chose qui n'inclut en fait que... les personnes à l'intersection... Enfin, c'est devenu l'intersection de l'intersection, pour moi. Ce que je vois me perturbe, et je préfère inclusivité. Voilà. Mmh. Je trouve que c'est de la responsabilité de tout le monde, même quand tu parles de la marge... Ouais. Même quand tu parles de la marge, de faire le nécessaire pour que tout le monde se retrouve dans ton discours. Tenir un discours à la marge qui ne concerne que les personnes de la marge et qui n'a pour propos que de désigner du doigt quelqu'un qui est extérieur... pour ce qui se passe à l'intérieur. Je suis désolée, je suis trop vieille pour ça, en fait. Elles n'ont pas mon temps. Et du coup, voilà, ce mot-là me pose vraiment problème. Moi, je veux qu'on travaille sur l'inclusivité. Et ça, c'est de la responsabilité de chacune d'entre nous. Ça part à partir de nous, à partir des relations qu'on a les unes avec les autres. Et ça s'incarne et ça se voit. Et il n'y a pas de bullshit, en fait.
La lutte pour le plaisir, elle est inclusive, donc. Ça concerne toutes les femmes. On a tout un clitoris, il me semble. Enfin,
oui,
si...
même quand elles n'en ont pas. C'est
mais
ça.
Ça qui... mais oui.
C'est pour ça aussi qu'on lance combat, cette campagne.
Et c'est votre combat, d'ailleurs.
Mais ouais.
Et effectivement, on peut revenir sur la question de l'exclusion.
Mais oui.
Alors, j'ai lu des études comme quoi il y en avait de moins en moins aujourd'hui, que ça se réduisait. En même temps, j'ai l'impression que... Bah, je vois votre réaction et je laisse réagir.
Non, ça ne se réduit pas. C'est juste... alors, l'exclusion aujourd'hui, l'image que vous en avez... elle a trait voilà, à l'Afrique, mais pour une raison, c'est parce que c'est le territoire sur lequel on a le plus d'études sur cette pratique.
J'irais même l'Afrique noire.
L'Afrique noire,
en l'occurrence. Et on a d'ailleurs
voilà,
très tort. Et on a tort.
Carrément tort, parce qu'il y a un pays
qui le... Mais bien sûr, c'est l'Égypte voilà, qui pratique qui le plus cette pratique.
Voilà, en Afrique, c'est l'Égypte. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les Égyptiens sont plutôt blanches de
ils
teint.
Ils sont nord-africains.
Voilà. Et du coup, il faut savoir que jusqu'en 2015, on avait donc une statistique qui était à peu près stable. Et on se disait, il y a 130 millions de femmes dans le monde. Et en 2015, on a découvert l'Indonésie. Et là, les statistiques sont passées à 200 millions. Voilà, juste l'Indonésie, hein, au passage. Et on a découvert en même temps que, bah, qu'il n'y avait pas que l'Indonésie, qu'il y avait aussi l'Amérique du Sud, qu'il y avait la Tchétchénie là-haut, qu'il y avait... il y a un seul endroit, en fait, dans le monde, sur les cinq continents. Il n'y a qu'en Antarctique que ça n'existe pas. Voilà, c'est simple.
Ça existe aussi en Europe. Alors, question très naïve et très ethnocentrée, certaines... en Europe aussi.
En Europe aussi.
Mais comment ?
Alors, selon les chiffres de NINED, elles sont 60 000. Alors non, pardon, le dernier, voilà, les dernières statistiques, c'est 53 000 exactement. On pense que c'est plus 60 000 depuis. On attend les nouveaux chiffres qui doivent tomber cette année. Et ici, tout simplement parce que les populations, les filles appartiennent aux populations qui ont cette pratique en Afrique en général. Et quand ils ramènent en fait leurs filles ici, la pratique est de mise. Donc c'est une, c'est 3 filles sur 10 ici des populations africaines. Et le drame surtout pour les jeunes filles, c'est qu'en fait ça se fait pendant l'été, pendant les vacances scolaires. Là, quand elles rentrent, elles pensent partir en voyage au pays et avoir du bon temps. Et en fait, on en profite à ce moment-là pour en faire des femmes des vraies, puisque la définition veut que avant l'excision, elles ne soient pas des femmes et qu'elles ne soient pas purifiées. Voilà, il y a le mot purification derrière.
Vous avez une réaction sur ce qu'on vient d'entendre qui, moi, me laisse un peu bouche bée.
Non, mais ça laisse tout le monde bouche bée.
En tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas réduire cette question-là à l'Afrique. C'est un cliché qu'on a. Et d'ailleurs, apparemment, en Russie, il y a des cliniques qui pratiquent l'excision pour des raisons religieuses. Et qui propose, enfin qui accepte en fait des demandes d'excision de femmes.
Mais il faut savoir que ça se pratiquait ici dans les espaces européens jusqu'en 1954.
Oui, totalement.
Hein. Enfin, on a vu ça aux États-Unis. C'était une méthode qui était mise au point pour calmer les ardeurs des petites filles. Voilà. Donc, bizarrement, c'est quand même un truc qui est assez fascinant cette histoire quand on s'intéresse à cette question-là. C'est comment est-ce que, de manière globale comme ça, tout le monde a réussi à comprendre qu'il y avait un truc là entre nos jambes et à adopter cette pratique, quoi. Donc ça dit vraiment quelque chose de la manière dont le féminin est perçu,
de la peur
qu'elle suscite, et de, enfin, c'est universel, sans déconner, quoi.
Donc, moi, je suis présente d'une certaine manière, je me sens rassurée par tous les mouvements que je vois, par toutes les prises de parole. Je vous entends, j'ai envie d'y aller. On en est où ? Enfin, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question, mais vous, votre état d'esprit par rapport à ça, par rapport à la liberté, le plaisir, est-ce que vous êtes plutôt rassurée ou c'est...
Je trouve qu'on va dans la bonne direction, ouais. Après, moi, j'ai l'impression que ce qui s'est vraiment passé aussi, c'est qu'on a compris que tout ce sur quoi, en fait, on ne parlait pas, en disant « mais c'est pas bien grave », en fait, soudain, ça nous a un peu explosé au visage, et on s'est soudain, déjà, et d'une, on a vu qu'en fait, toutes les femmes avaient un peu vécu les mêmes choses, et qu'en fait, c'était hyper bizarre, parce qu'on disait « oui, mais ces choses sont pas très graves ». Donc que ça soit une main au cul, que ça soit le fait qu'on jouisse pas, que ça soit le fait qu'on sache pas qu'on a un clitoris.
Qu'on ait mal au ventre pendant nos règles, voilà, de manière démentielle.
Et rien n'est jamais grave, donc quand ça touche les filles, c'est pas grave. Et en fait, je crois que ce « c'est pas grave-là », soudain a disparu, enfin, est en train de disparaître, et que c'est cette disparition-là qui va un petit peu changer la vie des femmes, à mon avis.
D'ailleurs, Pauline.
Ouais, il y a une révolte, je pense, parce que finalement, l'asservissement et la soumission du corps des femmes, parce qu'il est tellement plein de pouvoir. Moi, je pense que tu le disais au début, Axel, le clitoris, c'est tellement un totem, enfin, de pouvoir, que oui, visiblement, il est menaçant. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui pensent que parce que certains ou certaines auraient un pouvoir, ça, eux, ça leur en enlèverait. Enfin, c'est une peur très, très archaïque. Et moi, je pense qu'il y a une révolte, en fait, contre cet asservissement des corps, parce que quand, justement, t'es féministe et que tu découvres le pouvoir de ton corps, tu te dis, mais on s'était bien foutu de moi, en fait. Et je pense que cette révolte-là, elle gronde, même s'il y a, évidemment, des retours de bâton, et le slut-shaming, ça existe encore, le viol, évidemment, ça existe encore.
Et toi, d'ailleurs, tu t'es intéressé à une autre forme de violence, le harcèlement de rue. En octobre dernier, tu lançais la TRAC. Donc un programme de réalité virtuelle où on se mettait à la place d'une femme dans la rue qui se faisait harceler. Et pourquoi ce projet ?
Ouais, en fait, je pense que ce qui joue aussi en ce moment dans tout ce mouvement, c'est que finalement, il y a peut-être pas mal de personnes qui sont dans une forme d'empathie ou qui veulent en tout cas, qui se mettent à la place des autres. C'est-à-dire qu'à un moment, même quand t'es un mec, si toutes les filles autour de toi te disent « en fait, j'ai vécu du harcèlement », si tu ne peux plus voir ça, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et donc en fait, la TRAC, c'est un projet en réalité virtuelle pour vivre en fait quelque part, être à la place de quelqu'un qui vit du harcèlement de rue, par exemple, ou du harcèlement au travail, parce qu'on pense que justement la réalité virtuelle, ça peut augmenter cette empathie-là et de dire qu'en fait, voilà, cette réalité-là des violences, elle est non négociable, elle n'est pas contestable. Et en fait, on l'a décliné maintenant, on a remporté la bourse Facebook sur le civisme en ligne, et maintenant on travaille sur le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire.
C'est là où ça commence. Enfin,
voilà,
c'est...
et en fait, ça concerne beaucoup la sexualité des jeunes filles aussi. Et en fait, par exemple, moi j'étais un peu en immersion avec les écoutants de l'association qui recueille les témoignages des jeunes ou des parents. Et en fait, c'est ce qu'ils me disaient, la Ligue du LOL à côté, c'est rien, quoi. Là, il y a vraiment des appels au suicide, c'est beaucoup sur la sexualité, donc les nudes des filles qui tournent, c'est la salope. Voilà. Enfin, je vais pas dire les insultes, mais c'est extrêmement grave, en fait. Moi, j'en avais un peu conscience, hein, mais là, je prends un peu la température de ce truc-là et je vois à quel point... Et c'est peut-être là, en fait, ma réserve sur est-ce que tout va bien, enfin, est-ce qu'on est en train d'évoluer ? Oui, on est en train d'évoluer, les filles se battent, il y a du féminisme. Mais en fait, quand on voit le slut-shaming et la dévalorisation de la sexualité des femmes au collège, par exemple, ça fait vraiment super peur. Après, j'ose croire qu'ensuite, les messages féministes arrivent de manière plus démocratique, plus rapidement. Mais ça, ce truc-là, sur Instagram, sur Snap et tout, et qu'on va descendre la pute, entre guillemets, du collège ou du lycée, enfin, surtout du collège, j'ai l'impression, c'est un truc terrifiant, quoi.
Mais c'est pas qu'au collège, au lycée, je me permets, Carole, vous dans la rédaction des Arocs, vous avez été touchée par le scandale de la Ligue du LOL. Je peux pas poser cette question là en fait, et on se rend compte qu'en fait que c'est pas juste le petit jeune de banlieue, c'est pas le petit immigré, c'est pas que le jeune qui est pas éduqué en zone périurbaine, c'est aussi dans un milieu parisien super éduqué, super élitiste.
Ah oui, mais ça, à mon avis, ça fait bien longtemps qu'il faut vraiment arrêter avec les clichés. C'est comme le cliché du violeur, hein, c'est le Enfin, il y a des viols dans le 16e arrondissement de Paris. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment arrêter avec ces clichés-là.
Comment on se remet en question quand on est l'élite, d'une certaine manière, et quand nous aussi?
Bah, déjà, je pense qu'il faut jamais se voir comme l'élite. À mon avis, quand on arrive à ce moment-là, c'est vraiment qu'il faut peut-être arrêter. Enfin, surtout quand on fait le métier de journaliste, je pense que c'est pas du tout... ça peut pas se combiner, en fait. Un journaliste ne fait pas partie d'une élite. Un journaliste est à l'écoute de la société. Un journaliste, il recueille des informations. Un journaliste, il raconte des histoires, en fait. L'information, le problème, c'est que l'information, c'est le pouvoir. C'est un peu le résumé de la conversation qu'on a depuis le début. C'est-à-dire que l'information, comme l'information, c'est le pouvoir, il faut faire très attention à l'information et à qui la transmet et comment on la transmet et de quelle manière, etc. Et ça, à mon avis, on fait attention en faisant attention de façon collective. C'est un peu ce qu'on a vu avec la Ligue du LOL, c'est-à-dire que c'est vraiment passé une sorte de dénonciation collective qui était heureusement que ça s'est passé, cette dénonciation-là. Et à mon avis, voilà, c'est la force du collectif qui est en train d'émerger, enfin qui émerge depuis très longtemps sur Twitter, mais qui émerge à mon avis là de façon très très forte aussi sur Instagram, et qui à mon avis va continuer d'émerger justement pour que des gens se considèrent pas comme l'élite s'ils sont journalistes.
Effectivement, que tout le monde puisse se remettre en question.
Bah oui, bien sûr.
Et je pense qu'il y a un aspect aussi de cette histoire qui a mis en rage plus d'une d'entre nous. C'est que moi, il y a un moment, je me suis quand même posé la question de savoir, mais de qui êtes-vous les fils, quoi ? Tu vois ? Je pense que, alors c'est peut-être parce que moi je suis mère, mais je trouve qu'il y a aussi un aspect là qu'on n'a pas beaucoup abordé. Je pense qu'il y a l'éducation, c'est-à-dire il y a aussi une parole à la maison qui fait défaut. Et du coup, on se retrouve tributaire de l'école, mais l'école, elle ne peut pas tout faire, hein.
Non,
l'école,
ça,
c'est juste
sûr.
Des gens comme après, vous et moi.
Après, la cour d'école, par exemple, est très... Enfin, moi, j'avais lu la Fabrique des garçons, un super livre que je vous recommande à tous, et qui parle justement de ce qui se passe dans la cour d'école, mais c'est-à-dire au niveau structurel, donc le fait que le terrain de foot prend toute la cour d'école. Et en fait, le ballon, généralement, est donné aux garçons, et les filles se retrouvent dans les coins, d'où le fait que les filles sont toujours vues comme des pipelettes, qui parlent, qui ne sont pas dans l'action physique aussi, qui sont plus dans une sorte de parole ou qui sont et qui se font discrètes, qui restent dans les coins, voilà. Et donc à mon avis, il faut aussi se concentrer sur ce qui se passe à ces endroits-là, à la fois dans les cours d'éducation sexuelle avec le préservatif sur la banane et dans la cour d'école. Pourquoi est-ce que les filles sont dans des coins et à la maison
bien entendu. Et en parlant d'éducation, dans le dernier numéro des Inrocks spécial sexe, vous parlez de Netflix, du rôle de Netflix. Il y a une série dont on parle beaucoup qui s'appelle Sex Education. Pour ou contre? J'ai envie de faire un sondage.
Pour.
Je ne l'ai pas vu.
Vous ne l'avez pas vu?
Non.
D'accord.
Non.
Je
ne
l'ai pas vu non plus, mais a priori pour. Oh.
Moi,
on m'a dit
que
c'était bien.
Je suis plutôt séduite, mais effectivement...
Bah, moi, je suis totalement... bref, je suis fan. Ce qui m'a plus affligée, c'est qu'il y a eu une séquence qui a été faite, que je vous invite à regarder. C'était une toute petite séquence faite par Netflix sur Sex Education, avec des parents qui regardaient Sex Education avec leurs enfants. Et on avait donc le retour des parents face à la série. Et c'est là où tu te dis, ouais, putain, il y a du taf. C'est pas les gamins le problème. Hein. Voilà, donc je vous invite à regarder cette petite séquence qui est disponible sur YouTube. Et à partir de là, vous allez voir exactement le boulot qu'on a à faire derrière. Quoi.
Sans transition aucune. Il n'y a aucun lien entre Sex Education et Maxime Facciotti. Mais c'est un peu notre Netflix à nous. Enfin, on le sait tous. Enfin, voilà, notre divertissement... officiel de Radio Campus Paris. Je sais pas comment te présenter, Maxime. J'ai hâte. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé autour d'un même plateau, autour de même micro, et j'ai envie que ce soit le moment du quiz de Maxime Facciotti.
Ah, ça me fait plaisir. Merci, Daniel. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Quiz donc orienté pornographie, bien sûr, dans les fesses à l'air.
Comme d'hab.
Changeons un peu de sujet. Alors, commençons dans le film Gorge profonde. De Gérard Damano, le scénario raconte l'histoire d'une femme, Linda, qui a des soucis anatomiques, puisque son clitoris se trouve où ?
Au fond de sa gorge.
Au fond de sa gorge.
Au fond de sa gorge, voilà, c'est une bonne réponse.
Un point pour Axel, moi je ne comptais pas.
Ouais, au fond de sa gorge, elle pensait qu'elle ne pouvait pas évoquer le plaisir, qu'elle ne pouvait pas avoir de plaisir parce qu'elle n'a pas de clitoris. En fait, le médecin a pu résoudre son problème.
Je précise, c'est un quiz, le public peut participer.
Ah oui, bien sûr, voilà. Effectivement. Petite question historique, Le coucher de la mariée est considéré comme le premier film français érotique. Il est sorti en quelle année ?
1789.
On parle de cinéma. Allez, 1789. D'autres propositions? 1800? 1902?
1910?
1910? Pauline? C'est... Oui, c'est un film muet, oui. C'est plus vieux que 1915.
1920?
C'est plus vieux encore. 1930? Non, encore plus vieux. Quand je dis plus vieux, c'est-à-dire qu'il faut... Alors... C'est de l'autre côté. Plus vieux que 1910. 1895, allez, j'accepte, c'est 1896. Bravo, Hugolin. Ouais. Donc voilà, Le coucher de la mariée, considéré comme le premier film anti-français, Hugolin, 1896. Un point. Alors là, je vais dire le début d'un titre de film porno, il faut trouver la fin. Alors, arrête de limer, t'attaques les... Les quoi?
Les pieds.
Pas les pieds, non. Non, c'est un film porno. Pas fétichiste. Un truc... Pas les ovaires, bonne réponse d'Hugolin.
Hugolin,
bravo.
Deux points.
Hugolin, un deuxième point avec les ovaires. Arrête de limer, t'attaques les ovaires. Ensuite, deuxième film, des pétasses au pays des...
Merveilles.
Non, alors c'est un film espagnol.
Des chicas.
Non, non plus. Pas des tortillas, mais ça se mange.
Des palabras.
Non, non, pas des patatas, plus court.
Des bravas.
Non, pas des paella.
Des tapas.
Non, des tapas.
Des tapas.
Oui. Des tapas.
Qui c'est qui a dit ça? Pauline.
Bravo.
Pauline, un point.
Des pétasses au pays des tapas. Ensuite, donc là, je vais dire un titre de film. Il manque un mot, il faut trouver le mot. Retourne là, on sera mieux assis. Retourne là quoi? Retourne là... La chaise. Oui, bonne réponse, bravo. Retourne la chaise, on sera mieux assis. Pardon. Oui, c'est le titre. Oui, c'est le titre. Oui, c'est le titre. Alors, non, j'ai malheureusement pas l'affiche du film. Je vais. Alors là, ensuite, il va falloir trouver des parodies de titres de films. Donc, c'est des titres qui existent. C'est des titres parodiques de titres de films qui existent. Donc, Le ciel, les oiseaux et ta mère, ça donnera. Non, pas ton père, mais c'est.
Le ciel, les oiseaux dans ton père. Ta mère dans ton père.
Non, c'est pas ça, non. Le ciel des oiseaux, ça change pas, c'est et ta. Il y a quelque chose qui change, et juste un mot.
Et ta schneck.
Non, pas et ta mère. Et ta bite. Et non, pas et ta bite.
Et Castaner.
Non, pas Castaner non plus. Beaucoup plus simple. Je crois que j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui est. Est-ce que. Non, pas ta chatte. Non.
Non, j'ai dit
plus,
non.
Plus global que ça.
Et ta vulve.
Non, encore non plus. Non, 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 je cherche le contenant de tout ça.
Et ta femme.
Et ta femme, bonne
oui
réponse. Voilà.
Brice.
Le ciel, les oiseaux et ta femme. Okay. Les 12 coups de minuit.
Les 12 coups de...
Non, c'est pas coup. Alors c'est minuit, oui, mais c'est les 12...
Pinin.
Couilles.
Non.
Bravo, les 12 couilles de minuit.
Les 12 couilles de minuit.
Facile, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Facile, non.
Non, mais je veux dire, c'est pas recherché. Non, pas... Non.
Astérix et Obélix, mission... 4 pattes.
Non, c'est mission qui change. Non. C'est...
Missionnaire en 4 pattes, missionnaire...
Oui, alors, bah, c'est pas loin, Brice, bravo, c'est Astérix et Obélix se font Cléopâtre.
Énorme.
Tout simplement.
J'ai hâte de voir ce film.
Le bal des actrices.
Oula.
Le bal des...
Non.
Je peux pas dire un truc sexiste, non. Hein,
non, c'est un synonyme de d'actrice pornographique. Le bal des...
Des Stardux.
Des hardeuses, bravo. Le bal des hardeuses, bravo Pauline. Pauline. Le château de ma mère.
La chatte de ma mère.
La chatte de ma mère, bravo. Bien sûr.
Martin.
On est un peu plus dans les émissions de télé-réalité. Qui veut épouser mon fils?
Sucer mon fils.
Qui veut branler.
Alors, c'est pas qui veut baiser ma fille, mais on n'est pas loin. On reste sur le titre original. Qui veut baiser?
Mon fils,
voilà, qui veut baiser mon fils, tout simplement.
J'ai dit sucer, ok, j'ai eu. Ouais, tu vas
Le silence des agneaux.
Le supplice des anneaux.
Non. Non, c'est le silence de quelque chose. Non. On parle de garçons peu expérimentés. Le silence des...
Des puceaux.
Des puceaux, le silence des puceaux. Bravo, bravo. Et enfin, un dernier. Inspecteur Gadget. Non, pas un sphincter,
Gadget.
Non, c'en est un autre.
Inspecteur
Braguette.
Inspecteur Braguette. Inspecteur Branlette.
Non, Gadget ne change pas. Inspecteur transformé en une phrase.
Grosse jaguette.
Non. Hein?
Inspecte son gadget.
Bon, j'accepte, c'est Inspecte-moi le gadget. Voilà. Bravo Brice, une fois de plus. Voilà, vous avez été très bon ce soir. Bravo, bravo.
Et vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup, Maxime. Donc, il y a 3 gagnants ex aequo, Pauline, Brice et Hugolin. Bravo à vous 3. Vous n'avez absolument rien gagné à part la gloire. Voilà, je tenais à vous le dire. Et sans transition aucune, encore une fois, j'adore cette émission. Je l'avais envoyé à la marche pour le climat cet après-midi pour faire l'inventaire des slogans féministes.
Dis que j'écris mal, vas-y.
Complètement. Et sexy du type bouffe mon clito, pas mon climat. Et autre, plus de clito, moins de glyphosate. Mais il a décidé de faire autre chose. C'est donc à Brice de
parler. Je me permets de t'interrompre, pardon, Dania.
Rapidement.
Oui, non, faut m'appeler Pitoum à la radio, parce que c'est pas Brice, hein, tu comprends. Ça, c'est pour la cohérence de mon personnage, pour que les auditeurs et les auditrices s'y retrouvent. C'est pas grave, t'inquiète, je prends la parole. Je vais continuer tout seul, c'est mieux comme ça. Non, bon, du coup, je me suis lancé, je vais y aller. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Moi, je suis hyper content d'être là. C'est vrai que quand on m'a parlé de cette soirée pour libérer la parole des femmes, j'ai vraiment trouvé ça super. Et bien entendu, dès que tu as demandé qui voulait participer, je me suis empressé de réclamer un créneau, de peur qu'un mec cis blanc vienne encore monopoliser la parole. Pardon, un mec cis blanc masculiniste. Hein. Moi, je suis un allié, donc c'est pas pareil. En plus, j'ai pris des coups de soleil à Marche pour le Climat. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, t'as empêché un gros con de prendre le micro, c'est pas mal. T'as fait un début de job, mais il faut quand même faire quelque chose, hein, et si possible dans le thème qui est donc la libération de la parole des femmes, sur le sexe plus précisément d'ailleurs. Et c'est vrai que je suis plutôt calé sur le sujet parce que j'ai toujours eu pas mal d'amis filles en fait, et je leur ai toujours beaucoup parlé, hein, de mes histoires de cœur, de mes histoires de cul, de mes histoires de famille, de mes histoires de boulot, de mes engagements politiques, de mes doutes, de mes joies, de mes peines, de mes envies, de mes réflexions sur le féminisme et de mes combats féministes. Et c'est vrai que quand je dis que je suis un allié, c'est vraiment un état, tu vois, un truc permanent, une façon d'être et de penser. L'autre soir encore, non, j'étais avec des amis .e.s, et tout à coup, ça commence à se friter entre un mec et une nana, et je sens que le mec commence à la prendre de haut et tout, et là, je réfléchis pas deux secondes, quoi. J'interviens direct pour calmer le jeu, lui dire que ça se fait pas, et du coup, prendre le temps d'expliquer à ma pote ce qu'il essayait de lui faire comprendre. Bah, elle s'est vénère encore plus, mais c'est pas grave, tu vois. Je veux dire, c'est ça, être allié. C'est être prêt à prendre des risques pour la cause, être prêt à aider une femme en détresse, même si elle pense qu'elle a pas besoin d'aide. C'est une abnégation absolue, quoi, tu vois, quelque part, un truc sacrificiel. Bref, tout ça pour dire que je sais de quoi je parle quand il s'agit de la parole des femmes, alors que, comme la soirée se veut aussi plutôt festive et que, blabla, on m'entend déjà beaucoup sur cette antenne, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de prêter ma voix à une femme et de lire des textes engagés de femmes combatives et combattantes, et n'hésitant pas à dénoncer le patriarcat omniprésent. Mais je me suis ravisé en réalisant que je pouvais faire bien mieux, hein, que de laisser la parole à des femmes pour libérer la parole des femmes. Hein. Je pouvais plutôt vous donner un conseil. Et pas n'importe quel conseil, hein, presque un tuto pour vous libérer finalement. Comment penser avec votre schneck ? Non, parce que si on regarde bien, dans l'histoire de l'humanité, il est admis que les hommes pensent avec leur bite. Et regardez où ça nous a menés. Des millénaires de domination masculine, simplement parce qu'on s'est servi de notre tub comme d'une boussole pour nous guider dans cette aventure sublime qu'est la vie. Alors du coup, comment qu'on fait pour penser avec sa schneck ? Le premier truc à faire, c'est la sortir dès que vous pouvez. S'il y a bien un truc qu'on fait tous, nous les mecs, c'est dégainer nos bites à la moindre occasion, même quand il n'y a pas d'occasion d'ailleurs. Pour la montrer, pour faire l'hélicoptère, pour envoyer une dick pic, pour la poser sur l'épaule d'un collègue, tout le temps. Tu vas me dire, Dania, mais pourquoi faire ?
Moi, j'ai rien dit.
Et c'est là que je vais te faire la révélation de la soirée. Le sexe est un organe hypersensible.
Non,
je t'apprends rien, ok. Mais du coup, c'est parce qu'ils la sortent si souvent, leur bite, que les mecs captent si bien l'air du temps. Pourquoi tu crois qu'on préfère pisser dans la rue plutôt que dans des toilettes ? Mais parce qu'on sent mieux le vent, on sent l'air, et c'est ça qui nous guide. Mais il ne suffit pas de sentir l'air, attention, hein. Il faut accepter de suivre la direction que te pointera ton clito. As-tu déjà vécu ce moment étrange, que tu n'as pas tout de suite compris, où un homme a commencé à te poquer la hanche, les fesses, le bras, avec sa bite bandée ? Tu as interprété ça comme une agression, et lui n'a pas compris. Parce que c'est simplement qu'il est connecté à sa bite. C'est elle qui a saisi l'air du temps, et c'est elle qui sait ce qu'il faut faire et où aller. L'homme n'est plus que le suiveur de sa bite soumis à son flair infaillible. Alors voilà le grand secret, les meufs. Dégainez vos clitos, laissez-vous guider, libérez les désidératas de vos schnecks et prenez le pouvoir. Parce que nous, en fait, on a fait tellement de merde depuis des siècles et des siècles que c'est à se demander si on n'a finalement pas plutôt géré le monde comme des trous du cul.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Eh bien, merci beaucoup, Brice, pour ces conseils avisés d'un homme blanc, catho, ESP+, aussi.
Ah oui,
propriétaire à Paris. Pas très loin à Jaurès, c'est ça? Et c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Axel, Pauline, Carole, c'est ça la solution, la schneck à l'air? Pardon, je suis désolée pour cette question.
Ça, quelle façon de rebondir. Admirable.
Mise en abîme.
Non, mais c'est ça, c'est qu'on doit plus montrer ce qu'on est, notre sexualité, nos désirs. C'est...
À mon avis, ça passe pas non plus par une reproduction des schémas. Enfin, si je prends la question de façon hyper sérieuse, je pense pas que ça soit. Mais je pense que c'est une bonne question quelque part parce que, en fait, je pense pas qu'il faille transformer le fait. Enfin, il faut pas forcément copier les hommes en fait. C'est pas forcément ça la solution. C'est pas
inventer notre modèle à nous.
Bah ouais.
D'affirmation et qui.
Bah, à mon avis, ouais.
Inventer le nôtre et puis leur permettre à eux, en voyant que nous on trouve le nôtre, de trouver le leur aussi, de se réajuster. Parce que ils vont être obligés de se réajuster en voyant bien que nous on s'inscrit au cœur de notre désir et de notre pouvoir. Il va falloir qu'ils trouvent leur place.
Après, ça doit pas être une obligation, évidemment, mais par contre, celles qui auraient envie de montrer leur vulve ou leur clitoris, c'est Annie Sprinkle, il me semble, qui écartait les jambes pour dire aux gens « Venez, regardez comme c'est beau, et regardez-vous, et regardez-moi ». Donc, celles qui ont envie, pour le bien commun, montrons nos vulves, et celles qui veulent les garder pour elles, qu'elles le gardent.
Bah, Romy Alizé le fait très bien, déjà, je trouve.
Carole, vous êtes... confiante pour l'avenir ou juste pour le prochain numéro spécial sec des Inrocks?
Pour le numéro spécial sec des Inrocks, oui, je suis très confiante. Pour l'avenir aussi, je pense qu'il faut quand même rester optimiste. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que là, on traverse une période qui n'est pas facile. Mais à mon avis, si on y met tous un peu du nôtre et que justement on parle et qu'on remet un peu, qu'on écoute des gens qu'on n'écoutait pas forcément avant, à mon avis, on va très bien s'en sortir, tous ensemble.
Pauline, la même question.
Sur l'avenir ?
L'avenir, les femmes, l'égalité ?
Bah, en tout cas, je me dis que même s'il y a un retour de bâton, à chaque fois, je me dis qu'on passe une étape, on monte une marche de l'escalier. Donc je pense que là, comme on est mieux informé, l'état de la connaissance sur la sexualité des femmes et aussi sur les violences, il a quand même évolué. Maintenant, il y a une grosse production qui, je pense, sert beaucoup quand même. Ça devient un enjeu légitime médiatiquement, philosophiquement, intellectuellement. C'est hyper important. Et donc ça me donne assez confiance de voir le sérieux avec lequel c'est globalement pris, même s'il y a évidemment des sorties de route, genre les unes, genre plus le droit de draguer, plus le droit de rien faire, qui était, je crois, une couve du Figaro Magazine, enfin bref, ou de Causeur.
On peut plus rien dire.
Voilà, on peut plus rien dire, mais malgré tout, je pense que le volume d'informations qui est en train de se dégager sur ce qu'on est en train de vivre et sur cette libération, sur la sexualité, sur ces revendications-là, il me donne confiance.
Axel, la même question.
Profondément, je suis une optimiste viscérale, moi. Donc, j'y crois d'autant plus que début mai, il y aura un film qui va sortir sur les écrans français qui s'appelle Female Pleasure et que je vous incite vraiment vivement à aller voir. Et je pense qu'il y aura une conversation. Il y aura comme un avant et un après ce film-là. Et
déjà, la bande-annonce donne très, très envie.
Voilà.
Et vous l'avez partagé sur votre page.
Ouais, moi, j'ai partagé sur la page. J'ai la chance d'être l'ambassadrice du film ici pour la France. Et je peux vous assurer que la conversation qui va suivre derrière, c'est la preuve qu'on a fait un sacré job sur les trois dernières années, là. Et qu'on est parti aussi pour affirmer les modalités dans lesquelles on entend faire valoir notre plaisir et pas juste résister aux agressions. Il y a aussi cette parole-là qui émerge et elle est primordiale. À notre tour de dire oui et de définir en quoi ressemble ce oui quoi.
Eh ben merci beaucoup Axel, ce sera le mot de la fin, un grand merci à nos super invités ce soir, Pauline Verdusier, Carole Boinet et Axel Jajike, d'avoir été parmi nous ce soir. J'espère ne pas avoir écorché ton nom. Un grand merci à toute l'équipe des Fesses à l'air, Brice, surtout Brice, évidemment.
Brice, Lorna, chef d'orchestre maestro de cette soirée. Merci beaucoup, Lorna, Flore, Farah, Brice, Maxime. J'ai déjà dit Brice deux fois, je te remercie, je ne sais pas pourquoi. Et Lorraine qui n'est pas là ce soir, qui est ma binôme normalement. Normalement, cette émission, je l'anime toujours avec Lorraine et je lui fais de gros bisous et je pense à elle. Mais Martin est là et c'est un peu comme si Lorraine était là. Le festival Pop Meuf au pavillon des Canaux, c'est jusqu'au 31 mars. Alors venez vraiment, c'est vraiment cool et ça vaut le coup, cette initiative, on en a besoin. Et on vous laisse sur l'antenne de la meilleure radio du monde, Radio Campus Paris, et en podcast, hein, quand vous voulez, où vous voulez, c'est le principe du podcast, pour réécouter cette émission. Et on vous laisse donc avec Flore qui clôture cette émission avec une merveilleuse lecture. Bonsoir Flore.
Tout à fait, bonsoir Dania.
Flore.
Alors moi je pense que par le principe de la lecture, je vais à peu près ruiner tout ce qui vient d'être dit pendant cette 1h30. Des lectures absolument pas féministes, absolument pas le corps de la femme, mais au contraire, comment la littérature érotique, en fait, réinsère le patriarcat d'une manière absolument délicieuse. J'ai trouvé deux pépites.
Et bah, tu seras censurée.
Je serai censurée. Formidable.
Je plaisante, Flore. On t'écoute.
Alors, le premier texte, c'est un conte de La Fontaine qui s'appelle « Comment l'esprit vient aux femmes ». Voilà, on a déjà un magnifique programme. Il est un jeu divertissant sur tous, jeu dont l'ardeur souvent se renouvelle. Il divertit et la laide et la belle, soit jour, soit nuit. À toute heure, il est doux, devinez donc comment ce jeu s'appelle. Le beau du jeu n'est connu que de l'époux, mais c'est chez l'amant que ce plaisir excelle. De regardant pour y juger des coups, il n'en faut point, jamais on ne s'y querelle. Devinez donc comment ce jeu s'appelle. Qu'importe, sans s'arrêter au nom, ni ou badiner au-delà avantage, je vais encore vous en dire son usage. Il faut venir l'esprit et la raison, nous le voyons en main bestiole. Avant que Lise allât en école, Lise n'était qu'un misérable oison. Coudre et filet était son exercice, non pas le sien, mais celui de ses doigts, car que l'esprit eût part à cet office, ne le croyez pas, il n'en était nul emploi. Oh, Lise put avoir l'âme occupée, Lise songeait autant que sa poupée. 100 fois le jour, sa mère lui disait « Va-t'en chercher de l'esprit, malheureuse !» On en riait, à la fin, on lui dit « Allez trouver le père Bonaventure, car il en a bonne provision. » Incontinent, la jeune créature s'en va le voir, non sans confusion. Elle craignait que ce ne fût dommage de détourner un tel personnage. « Mon révérend, dit-elle au béatum, je viens vous voir, des personnes m'ont dit, qu'en ce couvent on vendait de l'esprit, votre plaisir ferait-il qu'à crédit j'en puisse t'avoir ? Non pas pour grosse somme, à gros achat, mon trésor suffit. Je reviendrai s'il m'en faut davantage. Et cependant, prenez ceci engage à ce discours, je ne sais quel anneau qu'elle tirait à son doigt avec peine. Ne prenant point, le père lui dit tout beau, nous pourvoirons à ce qui vous amène sans exiger nul salaire de vous. Entrez ici, suivez-moi hardiment. Nul ne nous voit, aucun ne nous entend. Tous sont de cœur, le portier et personne. Elle le suit, ils vont à sa cellule. Mon révérend la jette sur un lit, veut la baiser, la pauvre être recule. Un peu la tête, l'innocent dit, quoi ? Est-ce ainsi qu'on donne de l'esprit ? Et vraiment oui, repart sa révérence. Puis il lui met la main sur le téton. Encore ainsi, vraiment oui, comment donc ? La belle prend le tout en patience. Il suit la pointe et d'encore. Toujours d'esprit s'insinue et s'avance, tant est si bien qu'il arrive à bon port. Lise riait du succès de la chose. Bonaventure, à ce moment-là, donne d'esprit une seconde dose. Ce ne fut pas tout, un autre succéda. La charité du beau-père était grande. Eh bien, dit-il, que pensez-vous du jeu ? Voilà, ce n'est même pas le pire de ce que je dirais ce soir, Dania. Je te vois...
Tu es toute pardonnée, Flore.
Pardonnée, la censure n'est pas encore complète.
Pas encore, il y a encore un...
Voilà, parce que j'ai entendu, en fait, les lectures qu'on a fait dans les Fesses à l'air. On a été très nombreux à faire des lectures. On n'a encore jamais lu le Marquis de Sade dans les Fesses à l'air.
Ça a été fait, le Marquis de Sade. D'ailleurs, avec Missila, qui est là ce soir. On salue Missila, qui s'est dévouée pour lire le Marquis de Sade, parce que moi, je n'osais pas. Et on a fait le Marquis de Sade.
Alors, j'espère que ce n'est pas la même lecture, mais donc c'est toujours les infortunes de la vertu de Justine, la pauvre Justine, un peu... on veut savoir comment l'esprit vient à Justine, je pense un peu comme dans ce poème de La Fontaine.
Alors, liberté d'expression.
Bien sûr, vas-y, j'y vais. Quel est l'objet de l'homme qui jouit ? N'est-il pas de donner à bon sens toute irritation dont ils sont susceptibles afin d'arriver mieux et plus chaudement à la dernière crise ? Crise précieuse qui caractérise la jouissance de bonne ou de mauvaise en raison de plus ou moins d'activité dont s'est trouvée cette crise. Or, ce n'est pas un sophisme insoutenable que d'oser dire qu'il est nécessaire pour l'améliorer qu'elle soit partagée de la femme. N'est-il donc pas visible que la femme ne peut rien partager avec nous sans nous prendre et ce qu'elle dérobe doit nécessairement être à nos dépens ? Et de quelle nécessité est-il donc, je le demande qu'une femme jouisse quand nous jouissons. Y a-t-il dans ce procédé un autre sentiment que l'orgueil qui puisse être flatté? Et ne trouvons-nous pas d'une manière bien plus piquante la sensation de ce sentiment orgueilleux en forçant au contraire avec dureté cette femme à s'abstenir de la jouissance afin que nous jouissions seuls, afin qu'entièrement nous, rien ne l'empêche de s'occuper de nos seuls plaisirs? La tyrannie ne flatte-t-elle pas l'orgueil d'une manière bien plus vive que la bienfaisance? Celui qui impose n'est-il pas bien plus sûrement le maître de celui qui partage? Mais comment peut-il venir dans la tête d'un homme raisonnable que la délicatesse eût quelque prix en jouissance? Il est absurde de vouloir soutenir qu'elle y soit nécessaire. Elle n'ajoute jamais rien au plaisir des sens, je dis plus, elle y nuit. C'est une chose très différente que d'aimer ou que de jouir. La preuve en est qu'on aime tous les jours sans jouir et qu'on jouit encore plus sans aimer. Tout ce qu'on mêle dans la délicatesse, dans les voluptés dont il s'agit, ne peut être donné à la jouissance de la femme qu'aux dépens de celle de l'homme. Et tant que celui-ci s'occupe de faire jouir, assurément, il ne jouit pas. Ou sa jouissance n'est que plus intellectuelle, c'est-à-dire chimérique, ou bien inférieure à celle des sens. Non, Justine, non, je ne cesserai de le répéter. Il est parfaitement inutile qu'une jouissance soit partagée pour être vive et pour rendre cette sorte de plaisir aussi piquante qu'elle est susceptible de l'être. Et au contraire, très essentiel que l'homme ne jouisse qu'aux dépens de la femme, qu'il prenne d'elle quelques sensations qu'elle en éprouve, tout ce qui peut donner à l'accroissement de la volupté dont il veut jouir, sans le plus léger égard aux effets qu'elles peuvent en résulter pour la femme, car ces égards troubleront, ou il voudra que la femme partage, alors il ne jouit plus, ou il craindra qu'elle ne souffre, et le voilà dérangé.
Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way.
So good, so good, so fucking real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love you so, please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket, right now, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love you so, please don't stop it. It's like I'm
the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.